Quand on parle de responsabilité, en particulier quand on parle d'entreprise, on pense tout de suite, en tout cas moi, au greenwashing, c'est-à-dire à des entreprises qui racontent beaucoup de choses, mais finalement font pas grand-chose et font un peu du business as usual. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de voir avec Aurélia Cocheteux et Bruno Vinet comment on peut faire la nique au greenwashing, parce que justement, ils montent un événement qui s'appelle Sustainable Brands, où ils vont faire venir des marques qui essayent d'avoir un impact positif et durable dans la société. Donc c'est la première fois qu'on fait un épisode à trois, ça a forcément une forme un peu différente, mais je vous laisse avec cet épisode. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour, on va faire une expérience finalement, parce que c'est mon premier podcast à trois. Je suis avec Aurélia et Bruno.
Bonjour.
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 Et on va parler de greenwashing. Parce que quand même, on peut se le dire, les entreprises sont très fortes à faire des annonces et finalement pas très fortes à agir. Ou en tout cas, on a la sensation quand on est à l'extérieur et qu'on les regarde, on a toujours un regard sans doute un peu vigilant envers les entreprises. Et vous, en fait, vous êtes en train de créer un événement qui sont donc les 23 et 25, du 23 au 25 avril, je ne me trompe pas, qui s'appelle Sustainable Brands, donc les marques qui sont engagées sur le développement durable. Mais en même temps, vous avez des très grosses marques qui viennent. Comment on peut s'assurer que justement, ce n'est pas du greenwashing? Le greenwashing, pour mémoire, peut-être que vous voulez expliquer ce que c'est d'ailleurs, Aurélia.
Le greenwashing, c'est parler plus que ce qu'on ne fait, je pense, tout simplement. Effectivement, c'est quelque chose qui a eu beaucoup lieu depuis plus de 20 ans. Bon, il y a aussi du social washing, il y a aussi le purpose washing avec tout le monde qui s'excite sur sa raison d'être. Ouais. C'est de moins en moins possible de par la vigilance que tu exprimais des citoyens, des consommateurs, les réseaux sociaux. On ne peut plus cacher grand-chose quand même. Donc c'est vrai que c'est devenu une urgence pour les marques de plus se comporter comme ça. Et on espère effectivement que cet événement va leur donner les clés pour changer de comportement.
En français, on dirait langue de bois, en fait. Ouais. Parce que greenwashing, c'est un peu, effectivement, c'est au-delà du green, c'est bien plus de choses que le green, mais langue de bois, ça dit bien. On comprend bien ce que ça veut dire.
Et alors, comment on fait un événement sur des... Déjà, est-ce qu'une marque, dans l'absolu, peut être responsable? Est-ce que vraiment, c'est pas antinomique de vouloir avoir une croissance économique et en même temps d'être responsable?
Moi, je dirais, avant qu'Aurélia explique beaucoup plus précisément que moi le sujet, qu'en fait, il se passe quelque chose de vraiment, là, vraiment ces derniers mois, c'est vraiment presque les dernières semaines, ouais. Il se passe quelque chose de très fort. C'est-à-dire que toute cette langue de bois, on l'a tous entendu depuis 10 ans, ça fait longtemps qu'on parle de l'engagement. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est très, très, très récent. On sent que toutes ces grosses boîtes sont en train de vraiment bouger. Et elles bougent pour moi pour deux raisons principales. Une, parce que le consommateur fait savoir que s'il ne bouge pas, ils n'y vont plus. Mmh. Et deux, elles ont de plus en plus de mal à recruter parce que les gens ne veulent plus aller dans des boîtes s'il n'y a pas de sens dans ce qu'elles font. Donc ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment le grand... ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de ces deux points qui font que de toutes les façons, elles bougent parce qu'au niveau du business, si elles ne bougent pas, elles vont dans le mur.
C'est ce que j'allais dire, effectivement, les marques doivent être responsables, c'est devenu un impératif de survie. Après, ce qui est intéressant, c'est de venir creuser, qu'est-ce que ça veut dire être responsable? On parle de, bien sûr, respecter la nature, mais aussi respecter les hommes. On vient de parler des collaborateurs, mais c'est aussi quel rôle je me donne, quelle utilité j'ai dans le quotidien des gens, à quoi je contribue, qu'est-ce que je crée au-delà d'une valeur pour mes actionnaires. Donc là, ça va assez loin, en fait. On part d'une question de marketing, de communicant, et on arrive à, en fait, à interroger le rôle de l'entreprise, du capitalisme comme modèle de fonctionnement de nos sociétés. Et c'est là où c'est, en fait, passionnant, parce qu'on voit que ça redéfinit vraiment tous nos basiques et tout notre système.
Et du coup, est-ce que les marques, elles ont un rôle à jouer dans cette transformation ou pas? Comment vous l'envisagez, vous?
En fait, il y a marque et entreprise.
Oui, pardon.
Marque est liée à l'entreprise, évidemment, mais l'engagement, en fait, jusqu'à maintenant, l'engagement, c'était beaucoup, je crée ma fondation et puis je finance les aveugles du Rwanda. C'était très bien, il faut continuer à le faire. Maintenant, quand on parle d'engagement, c'est justement, on dit ça suffit pas. L'engagement, c'est une vraie réflexion sur la façon dont je fonctionne, la façon dont je consomme, la façon dont je produis, la façon dont je manage. Donc c'est vraiment un engagement, comme le disait Aurélien, c'est vraiment la façon dont, moi, en tant qu'entreprise, je crée de la valeur, en fait. Il faut créer de la valeur de façon engagée. Donc ça, c'est ça aussi qui est en train de bouger quand on parle d'engagement et de marque responsable.
Ça, c'est sur le volet entreprise et du coup, ça me permet de citer le mouvement B Corp que j'adore, qui est un mouvement qui vient des États-Unis et qui est vraiment très inspirant, anti-langue de bois, très, très engageant avec des marques comme Patagonia, Ben & Jerry's, enfin toutes les marques qui nous inspirent en tout cas au quotidien, elles font partie de ce mouvement. Et plus particulièrement sur le rôle des marques, je pense qu'elles ont un super rôle à jouer parce qu'elles ont cette capacité de trendsetter, en fait, d'installer les modes qui, j'espère, durent. Et dans ce sens-là, en fait, quand on a une marque qui nous dit de bien manger au quotidien ou alors l'État qui nous écrit en tout petit, en bas d'une affiche, manger, bouger, on se rend compte directement que l'impact en termes de comportement vis-à-vis du consommateur au quotidien est différent. Voilà.
C'est ça. Justement, fumer, c'est mal, c'est un très très bon sujet. Parce qu'on a justement, on a des cigarettiers qui aujourd'hui viennent nous voir en disant « moi, je veux arrêter la cigarette ». Alors que ça fait 40 ans que les gouvernements disent « fumer, c'est mal » et il ne se passe pas grand-chose sur la consommation de cigarettes. Mais quand ces gens-là commencent à dire « pour de vrai, je veux arrêter la cigarette », ce qui est un sujet très complexe en fait derrière.
Bah parce que c'est leur business en fait.
Non seulement, mais là, même si, alors non seulement c'est leur business, mais si tu veux, au niveau de arrêter la cigarette, ça veut dire qu'est-ce qui se passe si effectivement les gens sont addicts, donc il faut leur fournir quelque chose, ils sont addicts à quoi, donc
l'État et les taxes.
Et voilà, l'État gagne quand même beaucoup d'argent sur la vente de cigarettes. Et puis si tu arrêtes la cigarette, de toute façon, il y a de toute façon un marché souterrain qui se met en place, et là c'est encore pire. Et puis il y a toute une filière de production de tabac qui fait vivre des pays entiers qui n'ont pas besoin que justement on leur coupe des moyens financiers. Donc c'est très complexe.
C'est un équilibre aussi géopolitique quelque part.
Voilà, exactement.
Et c'est là où aussi c'est vraiment passionnant, c'est qu'on est dans cette... Je pense qu'il y a une prise de conscience des entreprises, des marques et bien sûr des citoyens. Par contre, maintenant, tout l'enjeu, c'est vraiment d'initier et de commencer ce chemin de la transformation. Et on est dans un monde qui est très complexe, systémique, tout est lié. Et c'est là où on va venir changer un curseur et on ne se rend pas compte, mais derrière, il va y avoir peut-être beaucoup plus de curseurs négatifs qui vont s'activer. Et il peut y avoir du greenwashing, mais je pense que la majorité du temps, c'est aussi... Les marques, elles sont désemparées. C'est des nouveaux réflexes, des nouveaux métiers pour les marketeurs, des nouveaux critères à prendre en compte. Avant, on pensait que consommateurs. Maintenant, c'est citoyens, c'est parties prenantes, c'est fournisseurs, c'est communautés locales. Alors, soit on le voit comme un océan de complexité, on baisse les bras ou on le fait de manière très maladroite et on arrive presque à faire du greenwashing. Mais avec un cerveau créatif, pour moi, en fait, ça devient juste un océan d'opportunités. Avec de nouvelles histoires à raconter, de nouveaux acteurs avec qui construire des choses. Et là, on est vraiment dans la réinvention du rôle des marques et c'est passionnant.
Ouais, pardon, vas-y.
Non, c'est juste pour compléter ces opportunités. Ce qui est génial, c'est que c'est tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que les grosses marques sont en train de réagir, c'est que des petites marques qui ne viennent de nulle part, tout d'un coup... montent en flèche parce qu'elles répondent à ce que le consommateur attend et elles ont un engagement qui fait que c'est possible et surtout elles ont accès au marché de façon beaucoup plus rapide. Donc les opportunités, elles sont à la fois pour ces petites parts qui peuvent devenir très grandes et puis des tas d'acteurs, des start-upers, des innovants, des innovateurs qui vont justement approcher que ce soit les marques ou créer leur propre marque pour justement changer la donne, quoi.
Mais il y a deux trucs sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est... Vous parliez tout à l'heure des impacts géopolitiques et des relations systémiques entre tout. Moi, parfois, ça me fait hurler quand je vais, chez Wall & The Moon ou dans des restos bio, où tu vois que ce que tu consommes, c'est des produits qui arrivent, c'est des produits bio qui arrivent de je ne sais où en Afrique ou en Amérique du Sud. Alors, c'est génial, hein, mais l'impact carbone de ce produit-là, en fait, tu le fais, mais tu le fais surtout pour toi et pas tant pour la planète, parce que quand tu réfléchis bien, c'est pas exactement du produit qui est très local, quoi.
C'est là où soit on est dans la maladresse ou on est dans la caricature de quelqu'un qui s'est dit « Ah, c'est la mode du bio, je vais faire du bio », mais qui n'a pas compris tout ce que ça embarquait comme valeur et comme notion. Et ça, c'est clair que ça va être amené à disparaître. Il faut de l'alignement, il faut de la cohérence. Et typiquement, ces consommateurs éclairés dont tu fais partie apparemment ne peuvent plus laisser passer ça, quoi. Donc, on a encore ce pouvoir du consommateur. Je vote quand j'achète. Mmh. Et donc là, ça va faire de plus en plus mal aux marques. Elles sont obligées d'être cohérentes avec ce qu'elles font, ce qu'elles disent, ce qu'elles sont.
Et avec ce qui est important aussi quand on réfléchit à tous ces sujets-là, c'est de quand on parle de Total, de Philip Morris, de Ferrero, de tous ces gens-là. Ces gens-là, on a tendance à les considérer comme le diable. Mm-hmm. Pour certains, ils assument. En tout cas, ils ne reviennent pas sur ce qu'ils font. Donc ceux-là, bon bah, on attend qu'ils prennent conscience que voilà, soit ils meurent, soit qu'ils prennent conscience qu'il faut vraiment qu'ils bougent. Mais ceux qui prennent conscience qu'ils doivent bouger. Ce qui est intéressant, c'est de les avoir autour de la table. C'est, quelqu'un comme Total, c'est toujours tous les gens, tous les acteurs autour de ces sujets-là. Total, c'est la grande question. J'y vais pas. Je les écoute, je les écoute pas. D'un autre côté, ces gens-là, s'ils ont vraiment la volonté de bouger, eux, en termes de business aussi, de toute façon, ils ont intérêt parce que le pétrole, il n'y en aura plus à un moment ou à un autre. Donc, mais il faut autant les mettre autour de la table et les accompagner pour être sûr qu'ils font les choses correctement. Mmh. Et après, c'est simplement, il faut, c'est là où c'est très subtil et il faut faire très attention dans l'univers de ce qu'on fait nous sur ce type d'événement, c'est que s'ils viennent et qu'ils parlent, il faut que ce soit pour du réel et faire des choses très très concrètes et qu'on se laisse pas embobiner sur justement des engagements qui soient des engagements de com ou des engagements qui est là ce que j'appelle la bombe à brouillard qui fait qu'en fait on va nulle part.
Et donc, on leur donne la parole, mais pas seul. On pense que c'est une des meilleures manières, en fait, d'éviter un discours descendant, autocongratulant, ouais, voire greenwashing. C'est de les mettre en conversation, un peu comme ce qu'on fait en ce moment, ouais, où on va proposer des dynamiques, croiser des regards, des convictions, souvent les mettre sur scène face à ce qu'on appelle un pirate, quelqu'un qui va avoir un contre-modèle. Et c'est comme ça qu'on pense qu'on va faire vraiment advenir les solutions les plus réalistes. Et on veut pas dire que les gros, c'est les méchants et les petits, ils ont tout compris. On a besoin de ces deux profils pour vraiment faire bouger des choses. Et c'est vraiment une des clés qu'on a développées sur l'événement avec beaucoup de plaisir. Pirate et Corporate on stage, ça va être sympa.
Non, mais ça, c'est hyper important. J'allais poser la question justement, comment tu évites les effets d'annonce sur scène. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, tout est lié. Je pense que, évidemment, les personnes, elles ont envie de marques qui sont plus responsables, mais en même temps elles ont envie d'avoir un salaire, donc il y a quand même des tensions qui sont assez complexes, et c'est en ça qu'on a évidemment besoin aussi des grosses sociétés, avec peut-être une prise de conscience à la Patagonia, on va dire, qui est sans doute l'exemple ultime de la boîte responsable, donc qui sont des grosses sociétés, mais qui en même temps ont une vision. Et c'est vrai que quand on parle avec des grands patrons de boîtes, moi je suis surpris parfois maintenant dans les discours, où tu sens cette authenticité. Alors ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'évidemment ils sont obligés de gérer la relation, c'est comme un cerf-volant, quoi. T'as la gauche et la droite, donc quelque part t'es obligé de gérer tes actionnaires et en même temps envisager le monde que tu souhaites laisser à tes enfants ou que tu souhaites pour tes enfants ou même pour toi-même, donc ils sont obligés de gérer les deux et c'est pas forcément très simple d'ailleurs, mais on a besoin de tous ces gens-là en fait autour de la table, parce que si tu leur dis de toute façon c'est les méchants, bah ça les met dans un coin qui fait que du coup tu n'avances plus.
Oui, c'est exactement ça. Et on a, nous, dans un événement qui est un événement quand même assez corporate, hein, qui va durer 3 jours, on s'est dit, on parle du monde de demain. Et comme c'est un événement corporate, on va avoir très peu de jeunes, puisque c'est le monde corporate. On s'est dit, on peut pas parler du monde de demain sans faire venir des jeunes. Donc on a décidé de recruter une cinquantaine de jeunes de moins de 25 ans de différentes universités, ouais, et on leur donne le rôle pendant ces 3 jours de hacker l'événement. Et on les a appelés les Youth Activators avec, ouais, un H. Et l'idée, c'est vraiment, ils vont avoir un t-shirt avec marqué derrière I am the future, talk to me. Uh-huh. Et on va vraiment, on leur donne la parole en plénière, ils vont intervenir dans les ateliers parce que justement, on considère, on peut pas être juste entre nous. Ben non, et parler ça. Du monde de demain et ce qu'on veut faire. Il faut vraiment qu'on soit challengé par tout type de profil, et les jeunes font partie de...
Et je pense aussi que ce qui va être intéressant, c'est d'aborder la réalité dans sa complexité. C'est pas binaire, ouais, par rapport vraiment à ce que tu disais. Et il y a des chemins, il y a des plans B, il y a des chemins de traverse. Voilà, le mouvement MiCorp, je citais en est un. Et de pouvoir concilier performance économique, respect de la planète et contribution sociale, c'est vraiment possible. Moi, à notre échelle, Pixelis, qui organise SB Paris, c'est exactement ce qu'on concilie. On est performant économiquement, on a des super salaires. faire. On compense tout ce qu'on peut en environnement. On a éco-conçu notre agence à fond. Elle est belle. Enfin, voilà, tous ces critères peuvent être cochés en même temps. C'est un autre cerveau. C'est un autre logiciel qu'il faut mettre en place. Peut-être un peu moins d'argent aux actionnaires. voilà, c'est surtout cette répartition de valeur, ces curseurs qu'il faut bouger. Mais c'est vraiment possible, quoi, si on s'en donne les moyens.
Et tu parlais des bicorps. Tu peux expliquer, parce que je ne suis pas certain que tout le monde sache ce que c'est qu'une bicorp. Et après, aussi prendre l'exemple de Danone, qui est une bicorp qui est la. Des grosses bicorps en particulier en France et sans aller dans la politique, c'est intéressant de voir que quand ils ont mis quelqu'un de chez Danone justement à la tête de l'environnement, ça a fait lever des grosses levées de boucliers quoi, évidemment.
Oui, alors
peut-être commencer par l'explication ce que donc, c'est que la bicorp.
Bicorp, c'est avant tout une certification, donc qui répond à un cahier des charges très très exigeant, qui va pas t'interroger sur ta stratégie de moyens. Oui, j'ai mis en œuvre une charte de la diversité. Oui, j'ai une charte achat responsable, etc. En fait, ça mesure ton impact. Ouais. C'est business impact assessment. Donc là, on vient mesurer tes impacts, te demander des indicateurs de mesure, et deux, on vient aussi beaucoup t'interroger sur ton business model, parce que tu peux faire des super RH, tu peux faire des super actions philanthropiques, mais si ton business model reste destructeur pour la planète et les hommes, bah tu es pas bicorp. Donc c'est vraiment, nous on adore, parce que c'est la crème de la crème de l'engagement dans les entreprises, et c'est très très inspirant, et je pense que c'est une belle solution et un bon référentiel pour les entreprises. Danone globalement n'est pas bicorp, c'est interdit. C'est les holdings, les gros groupes comme ça, ils peuvent pas l'être. C'est les marques, les structures, les deux Vache et Bicorp, ils ont une entreprise aux États-Unis qui l'est, Alpro qu'ils ont racheté exprès l'est aussi. Donc c'est toute une stratégie d'entreprise qui est l'idée par cette certification Bicorp, mais au global, juste pour préciser, ils ne le sont pas. Ils vont faire notre opening par contre, parce que c'est quand même exceptionnel, comme tu disais, une entreprise de cette taille-là qui s'engage dans ce mouvement très très exigeant, c'est super en termes d'impact derrière. Ouais. Et tu avais une troisième question.
Et la question c'était comment une. Enfin, donc il y avait ce rapport au gouvernement et le fait que quelqu'un de chez Danone rentre au gouvernement à l'écologie, que ça crée une levée de bouclier, mais c'est vrai que tu peux te poser la question. On parlait de cette marque qui veut potentiellement arrêter les cigarettes, mais on peut imaginer aussi une boîte comme Danone qui vend de l'eau en bouteille dans le monde entier, par les marques Evian entre autres. Du coup, c'est quand même un énorme changement de business model, parce que c'est par définition du plastique transporté en avion.
C'est vraiment, ils sont en train, ces grosses boîtes, ceux qui, en tout cas, enfin, qu'on accueille là et avec lesquels on discute, ils sont en train d'effectivement revoir profondément leur business model, leur façon de fonctionner, leur façon de réfléchir, à la fois sur le packaging, parce que le packaging, c'est un vrai sujet et pour tout le monde.
Et tout le monde, est-ce qu'il est fou avec le packaging, je trouve, pardon, je te coupe.
Non, je t'en prie.
Ce que je trouve assez complexe, c'est que finalement, les gens, ils aiment bien le packaging quand même. C'est ça. Parce qu'en fait, ils sont, même si tu leur donnes le choix entre deux produits, un qui est bien packagé puis l'autre, du coup, tu vas quand même plutôt avoir tendance à toujours celui qui est bien packagé.
Si tu veux, ça fait partie de la problématique, c'est qu'en fait, le consommateur, il est très schizophrène. Le consommateur, il dit, moi, je veux... Et puis, à côté de ça, il aime bien son packaging, il aime bien... On a un partenaire qui est une grande marque cosmétique qui nous racontait qu'il avait fabriqué un produit spécifique avec une cartouche, donc un très bel objet, et avec une cartouche pour que ce soit justement qu'on ne jette pas l'objet et qu'on recharge avec la cartouche. Ils ont énormément de mal à ce que le consommateur achète que la cartouche. Pourtant, elle est moins chère. Pourtant, alors après, est-ce qu'ils font suffisamment d'actions commerciales pour mettre en avant la cartouche et que ce soit vraiment intéressant pour le distributeur, parce qu'on ne parle pas du retail, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très, très acteurs.
Bien sûr.
Dans la façon dont tout ça se passe. Mais c'est intéressant. Le consommateur, il y a toute une éducation qui est importante et qui demande des moyens. C'est là où ces gros groupes sont intéressants dans la démarche, c'est qu'ils vont considérablement accompagner le consommateur dans sa nouvelle façon de consommer, parce qu'ils ont les moyens de le faire.
Et c'est tout le propos de Thomas Kölster, qui est un de nos fervents compagnons sur cette aventure. Lui, il pense que le nouveau rôle des marques, c'est pas juste de faire moins pire pour la planète ou de faire encore mieux, c'est d'aider le consommateur à devenir meilleur. Donc vraiment, c'est je suis une marque et je suis à ton service pour t'aider à produire moins de déchets, à manger mieux, et que ce soit facile, et que ce soit désirable, et que ce soit beau niveau et que ce soit accessible. Il y a aussi vraiment un enjeu par rapport à ces gros acteurs. C'est des acteurs, par principe et par définition, de masse. Mmh. Et c'est très important que les modes de consommation durable ne soient pas simplement réservés aux riches et à l'élite. Oui. Parce que quand on est encore une fois sur cette notion d'impact, il faut embarquer un maximum de monde. Et ces marques mainstream, elles ont ce rôle à jouer.
C'est pour ça qu'on les appelle ça des sociétés aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elles font société. Enfin, il y a vraiment ce concept. Moi, je suis assez convaincu, ce que je vous disais tout à l'heure, mais que les entreprises, elles ont un rôle immense à jouer. C'est vrai qu'on peut les diaboliser assez facilement parce que on va avoir tendance à préférer l'agriculture du coin, évidemment. Enfin, c'est logique et c'est assez humain en réalité. Mais en fait, ces sociétés qui donnent l'accès finalement à un ensemble de produits au plus grand nombre. Mmh. Mais en fait, si elles décident, alors au début ça va coûter cher, mais si elles décident à un moment donné de changer de culture et de produire de manière différente, on pourrait imaginer par exemple le moteur des voitures électriques, de l'envisager de faire de manière différente, parce qu'aujourd'hui, enfin, les gens achètent des voitures électriques et c'est très bien pour la ville, mais la manière dont la batterie est conçue, ça c'est quand même vachement moins bien. C'est-à-dire que c'est des gamins en Afrique qui vont aller chercher les métaux rares, et quand on regarde encore une fois, on est sur cette problématique d'image globale, finalement c'est pas aussi simple et c'est pas aussi facile que ça.
Exactement. Enfin, vraiment, moi j'adore Edgar Morin qui est vraiment à fond sur cette notion de complexité. Je pense qu'en fait les marques, elles héritent juste du système industriel, très à la chaîne, linéaire, tout est formaté, ouais, linéaire, et on produit, on reproduit, etc. Il n'y a pas qu'une solution à la mobilité, il y en a plein. Ouais. Dans certains cas d'usage, la voiture électrique va être la bonne solution, mais par pitié, sûrement pas, on remplace les voitures à pétrole par les voitures électriques, c'est juste pas possible. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est quand je disais, il faut changer notre logiciel, que ce soit à l'échelle de la société, de l'entreprise ou de la marque, il faut repenser les choses avec beaucoup plus d'agilité, de finesse. Et il se trouve qu'on a les outils maintenant, je pense beaucoup aussi à tout ce qui est digital, pour aller sur du sur-mesure, pour aller sur du temps réel. Donc on a les outils, hein, pour bouger. Il faut simplement que nous, dans notre tête, humainement, je trouve qu'il y a beaucoup un enjeu culturel, humain, sociologique, c'est que l'humain, il met aussi du temps à changer, en fait, dans ses réflexes, ses habitudes.
Et puis j'ai fait un épisode sur quelle vision. Je pense que ce qui manque fondamentalement dans la société, c'est aussi une vision positive pour demain, c'est-à-dire aujourd'hui. Une envie, exactement. C'est-à-dire un monde dans lequel tu as envie de te projeter, parce qu'aujourd'hui, le monde qu'on nous projette, ils sont très dystopiques, ces mondes-là.
Ça me permet de parler.
Mais vas-y, parle.
Ou alors, tu vas en parler, Bruno, mais de l'Uchronie. Vas-y, parle-en, parce que c'est toi qui es en dernier à travailler sur le sujet.
Je sais pas si vous connaissez le principe. Tu connais le principe de l'Uchronie?
Moi, je le connais pas, mais je suis assez certain qu'il y a plein de gens qui le connaissent pas.
L'Uchronie, en fait, c'est un moyen. Je donne un exemple avant d'expliquer qui j'ai trouvé une fois dans une expérience, dans un événement. Quelqu'un a donné cet exemple et je trouve qu'il est très, très significatif. On comprend bien ce que ça veut dire. L'Uchronie, donc, c'est se projeter dans un futur et de faire comme si c'était son quotidien. Et je donne un exemple. Une fois, j'ai monté comme ça un débat chronique et quelqu'un a dit: moi, je suis donc en 2040 et je me souviens en souriant qu'en 2020, j'avais Alzheimer. Voilà, c'est ça l'Uchronie. C'est génial. C'est de se dire, je me projette et je me dis ce qui s'est passé. Et c'est moi qui décide de tout ce qui s'est passé jusqu'à 2050, justement. Et donc...
On partage complètement ton point de vue sur cette nécessité créer un futur souhaitable, désirable, comme nos amis de l'Institut des Futurs Souhaitables en parlent souvent. Et c'est avec eux, d'ailleurs, qu'on va construire un débat uchronique pendant cet événement où on va...
Autour de l'intelligence artificielle, voilà. On va se mettre en 2050 et on va s'imaginer l'intelligence artificielle qui sera vraiment dans notre quotidien. Et comment on se projette de façon positive? C'est pas le monde des bisounours. Non. C'est vraiment regarder les choses de façon très concrète, mais plutôt de façon positive.
Et avec une éthique européenne, française? Parce que l'éthique, en fait, sur l'IA, et c'est intéressant parce que d'un pays à l'autre ou d'une zone à l'autre, c'est des éthiques qui sont très différentes, parce que on pourrait penser comme ça que l'éthique, elle est globale, c'est-à-dire qu'on a tous la même vision des choses, et en fait, c'est pas du tout le cas. J'ai fait un épisode avec sur la gouvernance avec Primavera, où elle disait, elle prenait cet exemple des accidents de voiture où il y a forcément une des deux personnes qui doit mourir, et en fait tu te rends compte que d'une zone à l'autre, finalement la personne qui meurt, en France c'est les seniors, mais par exemple en Asie c'est la personne qui a tort,
d'accord,
de manière un peu enfin pas imagé mais un peu direct comme ça, mais en Moyen-Orient c'est plutôt la femme de manière assez horrible. Donc voilà, en fait d'une zone à l'autre tu te rends compte que la notion d'éthique elle est différente. C'est pour ça que je pose la question sur
alors là
ce mais...
sera effectivement ça sera une discussion plutôt française puisque ouais. L'idée c'est qu'on trouvait intéressant de faire parler des écrivains de science-fiction.
D'accord.
Pour justement qu'ils se projettent sur le sujet, et ça sera animé par Mathieu Bodin qui est donc le fondateur de l'Institut Futur Souhaitable. Donc on est sur probablement une problématique assez française, mais ces auteurs sont des auteurs qui sont lus dans le monde entier, donc il y aura probablement une approche malgré tout assez internationale. Mais...
J'ai reçu Guy Philippe Goldstein pour parler de la science-fiction et de comment tu arrives à te projeter dans
l'avenir.
C'est génial.
Ouais. Les marques travaillent en mode planning strat, etc. Les marques travaillent de plus en plus avec des auteurs de science-fiction pour se projeter sur le moyen long terme.
C'est tout le sujet du podcast qu'on a enregistré avec Guy Philippe. Mais
Guy Philippe, il est spécialisé en plus dans les conflits et tout. Il adore.
C'est pas très positif pour le coup.
C'est moins positif probablement.
Mais c'est vrai que. Et alors, du coup, si les gens veulent venir, parce qu'en fait, il y a aussi cette question, donc l'événement, donc comment on le retrouve sur Internet aujourd'hui?
En fait, l'adresse, c'est très simple, je me permets de donner l'adresse.
Mais vas-y,
c'est SB Paris, SB, donc Sustainable Brands, paris.eu. Et d'accord. Là, sur le site, l'intérêt, c'est que ce qui est intéressant d'avoir sur le site, c'est de réaliser à quel point on a voulu faire quelque chose de différent. Je pense que ça se ressent très, très vite dès les premières pages du site où on voit qu'effectivement, on parle de responsabilité, d'engagement de façon différente et ça peut être sympa, ça peut être fun, ça peut être très concret. Donc, voilà, c'est le meilleur moyen de comprendre ce qu'on fait et de voir comment on peut venir.
Et si les individus qui écoutent, ils veulent... Parce que tu sais, aujourd'hui, tu as des apps type Yuka pour vérifier si la nourriture, elle est bonne, pas machin. Quel conseil vous donneriez à un individu qui souhaite savoir... C'est difficile quand on parle de greenwashing. Tu sais jamais vraiment les marques qui sont responsables par ça, parce qu'elles disent toutes qu'elles le sont. Tu vois, c'est une valeur à la mode, on va dire. Mais comment tu arrives à faire, tu vois, le tri en tant que consommateur? Parce que finalement, c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment le pouvoir de ton porte-monnaie. Alors, bien sûr, il y a des exemples assez basiques, alors moi, je vais prendre Coca-Cola. Bon, je sais pas ce qu'ils font précisément, mais j'ai tendance à penser que Coca-Cola, ils vendent des produits qui sont extrêmement sucrés. Alors maintenant ils mettent autre chose que du sucre, mais je pense que c'est encore pire pour le corps humain. Mais voilà, c'est mon avis. Hein. Je suis pas consommateur de Coca-Cola, ou alors de manière très sporadique. Et ils vendent surtout du plastique en fait, ces gens-là. Donc il y a des exemples comme ça où c'est facile. Il y a des exemples comme des tabatiers par exemple, on en parlait tout à l'heure, où tu te dis bon c'est facile, même si à part si effectivement ils décident de changer de métier. Mais pour des marques qui sont plus c'est plus complexe, par exemple Danone ou d'autres. Comment un consommateur il arrive à faire son tri là-dedans en fait?
Moi, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas de solution miracle parce qu'en fait, encore une fois, ça dépend de tes leviers à toi. Je me souviens, justement, pour Coca-Cola, on avait fait toute une campagne de com interne qui était plutôt des moments de discussion qu'on avait créés avec des collaborateurs qui n'étaient plus fiers de travailler pour Coca-Cola. Donc, il y avait une vraie urgence de ramener un peu de la fierté d'appartenance. Et en fait, on s'était rendu compte que les consommateurs ont différents leviers de consommation responsable. Je consomme pour ma santé, je consomme parce que je veux protéger l'environnement, je consomme parce que je veux promouvoir l'économie locale. Donc en fait, en fonction de tes leviers à toi qui vont faire sens, qui vont résonner avec tes valeurs, tu vas te diriger vers différents produits. Donc j'ai pas de solution miracle, moi, genre l'appli géniale qui te propose et qui te guide. Il y en a quelques-unes qui justement te proposent de rentrer en amont tes critères de consommation. Et justement comme ça, ils te filtrent. Désolé, je me souviens plus du nom. Mais...
On a une approche, il existe une approche sur un sujet qui est assez proche de ce que tu dis, c'est sur les gens, sur le bonheur au travail, sur le sens dans mon job. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui accompagnent, sont souvent des pure players, des jeunes boîtes, qui accompagnent justement les gens qui se posent des questions de ce, j'ai envie de sens dans mon boulot. Ouais, mais d'accord, mais ça veut dire quoi? Déjà, rien que ça, de se poser, de dire, ça veut dire quoi pour moi avoir du sens? Et on va être 10 dans la ligne, on va tous avoir une vision différente. Donc ça, déjà, c'est des choses qui existent, où il y a effectivement des boîtes qui accompagnent les gens à se dire, bon, à se poser la bonne question, qu'est-ce qui est important pour moi, comment j'avance et vers où j'avance.
Ça, c'est nos amis de So Many Ways. Moi, voilà. Je pense à eux.
Voilà, entre autres. Et donc ça, d'ailleurs, on a prévu dans l'événement de faire la dernière après-midi de l'événement, ça sera ouvert au grand public sur inscription. Et justement, ça sera vraiment
gratuitement.
Donc, faut juste s'inscrire à l'avance. Et l'idée, c'est d'avoir justement un moment autour de, du job à sens et de faire en sorte, donc on a des acteurs de ce sujet-là qui seront là, et puis de faire en sorte que les gens se rendent compte, et pour les marques qui sont là aussi, de valoriser le fait qu'elles sont engagées et de proposer des postes peut-être qu'elles ont autour de missions engagées. Donc ça, c'est dans la partie job, si tu veux, ça c'est quelque chose qui existe, qui est en train d'exister. Parce que, mais c'est vrai que dans la façon de consommer, moi j'ai souvent tendance à dire qu'on est au début d'une révolution qui est tellement plus énorme que la révolution digitale dont on nous parle déjà depuis plusieurs années et dans laquelle on est. C'est-à-dire parce qu'on est vraiment dans une révolution de consommation, de d'état d'esprit, de fonctionnement qui va être énorme. Et les entreprises, je pense qu'elles sont en train de prendre conscience de ça aussi. Et donc, en tous les cas, c'est l'intérêt pour elles d'ailleurs de venir à un événement comme celui-là, c'est de voir pour celles qui ont déjà démarré si elles sont sur le bon chemin et celles qui sont en train d'y aller, de se dire bah, par où je commence, quoi. Et là, on essaye vraiment de faire en sorte de leur donner des éléments très concrets pour qu'ils puissent ressortir avec de vrais outils pour être ce qu'on appelle, nous, les acteurs du changement, qui est le grand terme important pour les gens qui portent ce type de sujet.
Et chacun peut être un acteur du changement, c'est ça qui est beau.
C'est ça. Tous la possibilité. Et quand tu organises des événements, il faut être très humble dans la façon dont t'emmènes les gens. Évidemment, quand tu as ça, tu as envie d'emmener tout le monde. Mais comme le dit Aurélia, tout le monde n'est pas au même niveau. Donc certains vont faire un petit pas, d'autres un plus grand, et puis ils vont pas faire le même pas. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité et donner le maximum de possibilités aux gens d'avancer sur leur chemin sans se dire que tout le monde va avancer au même niveau et à la même vitesse.
C'est un acte politique de faire un événement comme ça pour vous ?
Ouais, clairement. En tout cas, c'est pas un move financier ni économique. Hein. C'est pour ça que j'y vais. Il y a quand même, c'est vraiment dans la lignée, en tout cas côté Pixelis. Nous, notre raison d'être, c'est d'essayer de faire en sorte que les marques soient vraiment partie, fassent vraiment partie de la solution par tous les moyens, par des logos, des campagnes de com, du packaging, et donc cet événement et cette association à la communauté Sustainable Brands nous est apparu vraiment comme un super levier à saisir. Donc, ouais, c'est quand même
à tel point que pour les entrées, c'est quand même comme ça, un événement corporate, c'est pas donné, c'est les prix. Ouais, mais on a classique. Fait parce qu'on a une charte justement où on parle d'inclusion et on a fait un prix spécial pour justement les acteurs du changement qui n'ont pas les moyens de payer un prix corporate. Et ben il y a possibilité de rentrer avec beaucoup moins cher sur un pass 3 jours. Et l'idée, c'est justement de donner la possibilité à des gens qu'on trouve très intéressant dans l'écosystème de l'événement. Donc, on a envie qu'ils soient là. Et s'ils n'ont pas les moyens, ben on leur donne les moyens de venir. Donc, ils apply, ils disent voilà pourquoi, qui je suis, etc. Et puis, on décide s'ils viennent ou pas sur la base d'un prix qui n'a rien à voir avec le prix corporate. Ouais, donc, c'est vraiment cette volonté. Comme le dit Aurélia, ce n'est pas une volonté de faire du business. Mm-hmm. C'est une volonté. Je dirais pas que c'est un acte politique, parce que malheureusement le mot politique a un côté un peu dévalorisant aujourd'hui, ce qui est quand même un peu triste, mais c'est en tout cas un acte d'engagement et un acte social, en tous les cas c'est sociétal, c'est vraiment pour faire bouger tout le monde, quoi.
Ouais, enfin, je trouve que c'est une période de vie qui est géniale, parce que effectivement, comme tu disais, je pense qu'on est à un tournant hyper profond de croyance,
enfin
ouais. De croyance dans la manière dont on aujourd'hui, la croyance, c'est le succès ou le bonheur, c'est le succès, c'est l'argent, c'est machin, ces trucs. Et en fait le fait de posséder des produits, évidemment. Et en fait, on est en train de changer complètement de modèle, et je trouve ça hyper excitant, même si on est au bord de la faillite un petit peu, quoi. Mais en même temps, ça a un côté hyper intéressant.
On rebat les cartes, en fait. Donc et encore une fois, pour revenir aux marques, bah, celles qui prennent conscience que si elles veulent être toujours dans le jeu, il faut qu'elles se remettent en question.
Sinon, elles vont tomber sur la falaise. Elles vont glisser sur la falaise.
Ouais. Il y a des très belles histoires de marques très très grosses qui sont complètement qui ont complètement disparu. Donc elles ont bien conscience qu'il faut qu'elles se bougent, quoi. Donc on espère, hein, nous on dit souvent, hein, par rapport à un événement comme ça, c'est ce que tu disais, l'écueil principal c'est le greenwashing et c'est la langue de bois. Nous on met tout en place pour éviter ça. Maintenant, rendez-vous le lendemain pour voir si on a réussi.
Bien sûr, bien sûr. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, j'aimerais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte, Aurélia.
Ben moi, de manière très optimiste, je veux ouvrir la porte.
Eh ben, ouvre.
Mais par contre, pas à n'importe qui. J'ouvre grand la porte aux marques courageuses, audacieuses, radicales, celles qui ont bien compris l'urgence de l'action et l'impératif pour elles de survie, qu'est l'engagement pour un monde plus écologique et respectueux de l'homme.
Nickel.
Ouais. Comme Aurélia l'a ouvert, moi je vais la fermer.
Tu vas la claquer.
Je la claque à la langue de bois.
Ok, super. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Grégory.
Cool.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.